Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Effectivement, c'est Culture Média. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Denet pour ses télescopages qui sortent du four et notre invité Grand Corps Malade pour sa tournée et aussi la réédition de son album qui est déjà un succès. Ça s'appelle Mesdames. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et Marc-Antoine Lebray pour clore l'émission. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Philippe.
Bonjour Bruno Denet.
Bonjour Philippe.
Bruno, tous les jours vous observez ici les rouages fins de la mécanique médiatique et ce matin, vous avez choisi de pointer votre télescope sur le traitement de l'opération baguette de pain à 29 centimes chez Leclerc, car cette affaire vous a semblé hautement symptomatique.
Oui, vous le savez Philippe, en matière de communication, le diable se cache souvent dans les détails. Et dans l'affaire du prix de la baguette de pain, le traitement de ces détails a été totalement saisissant, je vous raconte. Tout a commencé mardi matin. Michel-Édouard Leclerc était l'invité d'RMC et il était venu faire une annonce qui a parfaitement résumé Apolline de Malherbe.
Leclerc bloque le prix de la baguette. Il va être à combien du coup le prix de la baguette chez vous ?
0,29 la baguette de 250 grammes.
Alors ici, le petit détail auquel il fallait être attentif, Philippe, c'est un verbe, celui-ci.
Leclerc bloque le prix de la baguette.
Leclerc bloque le prix de sa baguette, ce qui signifie que le prix ne va pas changer, il va tout simplement rester le même, en dépit de l'augmentation des prix du blé, le même que celui qu'il était donc déjà. Information capitale et confirmée hier par Michel-Édouard Leclerc lui-même, qui était l'invité de C'est à vous sur France 5.
C'est une baguette premier prix, c'est une baguette industrielle, du pain blanc, qui était vendue entre 0,22 et 0,32.
Le prix n'a pas changé ?
Non.
Et pourtant, Philippe, voyant dans l'opération Prix du pain une occasion géniale de mettre la main sur un sujet concernant, l'ensemble des médias s'est pris de passion pour la question, mais en oubliant ce détail. Et c'est ainsi qu'hier soir, dans le 20h de TF1, Gilles Boulot a donc lancé le sujet avec cette formule.
Le groupe Leclerc a annoncé qu'il allait dès aujourd'hui casser les prix. Il vend sa baguette 29 centimes d'euros.
Leclerc va casser les prix, qu'il a dit. Quant à Anne-Sophie Lapix, sur France 2, eh bien, elle a choisi de nous vendre le sujet comme ceci.
L'enseigne Leclerc a décidé de frapper un grand coup en fixant le prix de sa baguette de pain à 29 centimes.
Bref, en utilisant les termes « frapper un grand coup » et « casser les prix », les présentateurs se sont allègrement fourvoyés, mais surtout, ils nous ont induits en erreur, laissant entendre que le prix allait baisser. Du coup, tout le monde a compris comme eux, même Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le puissant syndicat agricole, qui a donc déclaré sur RTL que si Leclerc était brusquement capable de faire chuter le prix de sa baguette, c'est bien qu'il nous avait roulé dans la farine jusqu'ici.
Il devait gagner beaucoup d'argent, imaginez sa marge. Là, il s'est révélé comme un grand qui se fait un pognon de dingue sur la baguette.
Alors que nous dit cette petite affaire, Philippe, et en quoi est-elle symptomatique ? Eh bien, elle raconte que les journalistes des grands médias sont quelquefois un peu déconnectés des réalités. La baguette coûte 29 centimes chez Leclerc depuis Mathusalem, mais pour le savoir, encore faut-il acheter son pain chez Leclerc. Or, comme la plupart des journalistes qui causent dans le poste habitent, comme vous et moi, dans les grandes villes, ils achètent leur tradition 1,20€ à la boulangerie du coin et ignorent totalement, c'est également mon cas, je vous le rassure, que le prix de la baguette est celui de 0,29€ chez Leclerc. Enfin, si vous me donnez encore un tout petit peu de temps, Philippe, il faut que je vous explique pourquoi l'habile Michel-Édouard Leclerc a fait cette annonce et comment on en est donc arrivé là. En fait, Michel-Édouard Leclerc l'a dit hier dans C'est à vous.
De toute façon, à chaque fois que je fais un truc, il y a une polémique.
Or, une polémique, il en a créé une, Maus, en tout début de semaine dernière. Interrogé sur CNews au sujet de sa ferme intention de faire respecter le pass vaccinal à l'entrée de ses supermarchés, Michel-Édouard Leclerc avait répondu ça à Laurence Ferrari.
Mais alors comment ils feront les gens qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas le pass vaccinal pour venir faire leurs courses ?
Ils viendront pas.
Tollé sur les réseaux sociaux, appel au boycott de ses magasins, Leclerc était devenu en un instant l'incarnation de la discrimination et de l'inégalité de traitement. Alors, Leclerc se devait urgemment de faire oublier cette séquence-là. En termes marketing, on dit ça comme ça.
Donc c'est important pour nous en stratégie d'entreprise de ne pas perdre la confiance du consommateur.
Magnifique formule et voilà pourquoi Philippe, en parfait connaisseur des rouages de la mécanique médiatique, Michel-Édouard Leclerc a utilisé une bonne vieille ficelle qui veut que pour éteindre une polémique, rien n'est plus efficace que d'en faire naître une nouvelle.
Merci Bruno Donnet, vraiment bravo. Deux analyses pour le prix d'une, même pas 29 centimes. Nicolas Caro, le programme de votre indispensable aujourd'hui.
C'est un livre de Bernard Quirini, l'auteur belge, qui revient avec le portrait d'un type assez incroyable, un excentrique, un aristocrate qui est mort il y a quelques années. Et voilà, il nous raconte sa vie.
Dans quelques instants,
il y aura peut-être une surprise.
Assez incroyable, assez excentrique, c'est Grand Corps Malade, il est unique. On va parler de sa tournée, de son album Mesdames, il y a une réédition. On va entendre le titre Nos plus belles années, c'est sur la nouvelle version de son CD, c'est un duo avec Kimber Rose sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. Un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Déconfiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années?
Je la mêle au présent, c'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
Nos plus belles années, c'est Grand Corps Malade en duo avec Kimber Rose.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Bonjour Grand Corps Malade.
Bonjour.
Alias Fabien Marceau, chanteur, slammer, le genre que vous avez popularisé en France, cinéaste, phénomène. Vous avez sorti en 2020 votre 7e album, Mesdames. Déjà 475 000 exemplaires vendus, c'est pas fini. Vous êtes pas seulement slammer, vous avez fait du cinéma. Deux films, Patient et La vie scolaire, ils ont fait 3 millions d'entrées en tout en salle. Votre livre, Patient, dans lequel vous racontiez votre rééducation après l'accident qui vous a laissé handicapé, s'est vendu à 600 000 exemplaires. N'en jetez plus. L'actu, et là encore, il y a une double actu, même une triple actu, puisque j'ai appris dans le journal de Romain Oquet, et je vous l'ai appris pendant que vous entriez dans ce studio, vous participez au nouvel album de Marc Lavoine qui sort aujourd'hui.
Alors, je savais que j'étais dans l'album, ça vous ne me l'avez pas appris.
Ouais,
je ne savais pas qu'il sortait aujourd'hui, ouais, donc très content.
Il est sorti aujourd'hui. Votre actu, c'est une réédition de l'album Mesdames, avec trois duos inédits. Kimber Rose, Nos plus belles années qu'on vient d'entendre, Mélodie Gardot et Leïla Bekti, un nouveau titre, Les gens beaux, et une énorme tournée à venir, on va en parler, mais d'abord l'album. Trois duos inédits, pour quelle raison ils sont inédits? Ils ont été enregistrés quand? Et si c'était si bien que ça, pourquoi ils n'étaient pas sur le premier album?
Ben, ils n'existaient pas encore.
Vous c'est les avez fait ensuite?
Ouais, on les a fait par la suite. C'est vraiment l'intérêt d'une réédition. Évidemment, la réédition, il y a un enjeu commercial, on remet le disque dans les bacs, etc. Mais artistiquement, c'est super intéressant. C'est sans refaire tout un album, bah quand même, on rentre à nouveau en studio, on écrit à nouveau. Il y a l'excitation de recréer un nouveau morceau, et puis là, des nouveaux duos. Et un duo, c'est jamais anodin. C'est à chaque fois, faut trouver toute une alchimie. Et donc, du coup, non, ces morceaux-là ont été écrits, composés et enregistrés après l'album édition numéro 1.
Je me permets de sourire parce que vous dites artistiquement et aussi financièrement. Ça fait deux albums pour le prix d'un ou presque.
Ouais, non, mais ça, c'est l'enjeu commercial. Après, nous, artistiquement, l'idée, c'est de pas se foutre de la tête des gens et de proposer une vraie réédition. Voilà, des fois, il y a la tentation de faire un ou deux petits morceaux et puis on appelle ça réédition et on remet l'album dans les bacs en avant. Là, bon, voilà, on a fait quatre nouveaux morceaux avec trois nouvelles partenaires. L'idée, c'était de pas se foutre de la tête des gens et je crois qu'on s'est pas foutu d'eux.
Je suis d'accord. Trois nouvelles partenaires, mais quatre morceaux. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un titre, totalement atypique. Il s'appelle Les gens beaux, titre écrit en soutien à la chanteuse Oshi qui avait été attaquée sur son physique par un chroniqueur spécialiste de la chanson française. Vous avez fait un truc terrible, vous avez utilisé la voix du chroniqueur, ça démarre comme ça.
On a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes? Enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous? Elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes.
Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on doit écouter ceux qui ont du talent? Qu'ont des tripes, qu'ont des couilles, qu'ont la dalle, ces petits auteurs gratteurs de guitare accablant. Nous, ce qu'on veut, c'est du beau, c'est du brillant, c'est du propre, c'est du lisse, c'est du sublime. Nous, ce qu'on veut, c'est le retour des belles gueules pour remplir le papier glacé des magazines. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on écoute les paroles des chansons? On a perdu la notion des beaux mâles, l'époque où on lançait de très beaux garçons. Tu sais écrire des paroles, c'est très bien, mais ton petit grain de voix, on s'en fiche. S'il te plaît, va donner tes chansons à celui qui sera plus joli sur la fiche.
Il faut des gens beaux.
Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux.
Pourquoi cette chanson?
Eh ben cette chanson, parce qu'avant d'en faire une chanson plutôt drôle et festive ou avec une grosse ironie, on dit qu'il faut des jambons. Eh ben avant cette ironie-là, il y a eu vraiment, je sais pas, j'étais très choqué. Vraiment, je n'en revenais pas de ce que je venais d'entendre. Donc voilà, ce journaliste spécialiste de la chanson française qui, sur une radio, de manière tout à fait publique, a tenu ces propos-là à invraisemblables. Donc a dit de la chanteuse Oshi qu'elle était effrayante.
Ouais, on a entendu.
Il a dit que quand on a du talent, bah, et si on n'est pas très beau, bah, il faut écrire pour ceux qui sont vraiment beaux, mais ceux qui ne sont pas des standards de magazine, il faut rester dans l'ombre et écrire des paroles dans l'ombre. Et il y a 4 minutes d'interview hallucinante comme ça, je ne pouvais pas faire mieux que reprendre ces propos, qui ont d'ailleurs été publics, pour pouvoir alimenter ma chanson.
Vous ne le citez pas, mais moi j'ai donné son nom. Est-ce que vous avez demandé l'autorisation à Fabien Lecoeuvre d'utiliser sa voix? Ou est-ce qu'il va le découvrir sur le disque?
Ouais, il l'a découvert sur le disque, évidemment il n'était pas content. Il menace d'attaquer, je ne sais pas s'il l'a fait, etc. Alors qu'en disant qu'on a utilisé sa voix, après, bon voilà, on n'a pas du tout utilisé sa voix dans une sphère privée. Hein. C'était des propos publics, malheureusement assumés par lui, dans une émission de radio. Donc voilà, du coup, j'ai des duos sur cet album avec plein de belles artistes et aussi avec ce monsieur, avec ses propos très étranges.
Album qui cartonne, et pourtant vous êtes absent du palmarès des Victoires de la Musique 2022, au point que Cyril Hanouna a poussé un coup de gueule dans son émission de mardi dans Touche pas à mon poste.
Je vais être obligé de boycotter cette soirée, qui est une merde sans nom. Je vous le dis, c'est de la merde. Je vais vous dire pourquoi. On va dire la vérité. Absent de la liste, le plus gros vendeur de disques, grand corps malade, ouais, absent des Victoires de la Musique. S'il n'y a pas de la magouille dans ces Victoires de la Musique, je demande à tout le monde de boycotter cette merde sans nom. C'est une énorme supercherie, c'est une énorme mascarade.
Vous êtes d'accord avec ça? Votre producteur Jean Rachid ne décolère pas?
Ouais, ouais, il était. Oui, oui, c'est surtout de l'incompréhension. Moi, je suis moins virulent qu'eux. J'étais déçu. Alors, je vais pas mentir, hein, j'étais déçu parce que, évidemment, après l'année qu'on a faite, on est dans les meilleures ventes d'albums. Mm-hmm. On a une tournée qu'on a déjà démarrée. On a plus de 40 zéniths, un Bercy d'ouvert, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu notre année. Ça se passe très bien pour nous. Donc, cette année-là, précisément, d'être complètement absent, de même pas être nommé dans aucune catégorie, on était déçu, c'est vrai.
Alors, je vais me faire l'avocat des Victoires de la musique. Ils expliquent ceci officiellement. Grand Corps Malade ne figure pas dans le palmarès. Il était présent à l'issue du premier tour dans la catégorie artiste masculin. Bon, là, vous avez disparu. Pour rappel, disent les Victoires de la musique, son album Mesdames est hors date. Il est sorti en septembre 2020. Le plus gros tube de l'album Je t'aime a été le lauréat 2021 de la victoire dans la catégorie chanson originale. Je voulais qu'on entende leur point de vue. Et votre producteur Jean Rachid, au Parisien, c'était le 25 décembre, il y a peu de temps, il voit une explication. Il dit c'est un coup des majors. Les maisons de disques n'aiment pas les petits indépendants comme moi et ils me le font payer indirectement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Alors, en tout cas, pour répondre aux Victoires, alors moi, j'ai rien contre les Victoires et je veux surtout pas boycotter. Allez voir les Victoires de la musique, il y a plein de beaux artistes. Mais en revanche, par contre, ce qu'ils ont dit est faux. C'est-à-dire que c'est pas parce que mon album est sorti en 2020 que je peux pas être nommé cette année, puisque la preuve, Julien Doré, qui a sorti son album en même temps que moi, là, il est dans Artiste de l'année cette année. Donc forcément, c'est que leur argument ne tient pas, puisque en effet, puisque mon album est sorti en septembre 2020, il ne peut pas être nommé cette année dans le meilleur album. En revanche, comme la tournée a lieu cette année et que plein d'autres singles sont sortis cette année, je peux très bien être dans tournée de l'année, dans artiste de l'année, etc. Donc voilà, leur argument ne tient pas forcément la route.
Voir dans invité de l'année, on est ravis que vous soyez là. Lisa Marie Marquez arrive, c'est le portrait pré-fame de Grand Corps Malade. A tout de suite.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Vous êtes dans Culture Média en compagnie de Grand Corps Malade et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité, autrement dit, le portrait de Fabien avant Grand Corps Malade. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Grand Corps Malade. Vous sublimez les mots avec votre timbre de voix grave et envoûtant. Vous avez collaboré avec de nombreux artistes dont Johnny Hallyday, Francis Cabrel, Charles Aznavour et Céline Dion, entre autres. Et vos textes sont aujourd'hui étudiés au lycée. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Grand Corps Malade, Fabien, vous êtes né à Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Vous grandissez à Noisy-le-Sec, puis à Saint-Denis. Enfant, vous jouez le roi dans les pièces de théâtre que crée votre grande sœur Delphine. Et votre maman vous donne...
Elle vous accueille. Vous attendiez pas la grande sœur.
Et votre maman vous donne un surnom en trois mots, Petit Chaton Bleu.
C'est vrai, ça me poursuit, c'est vrai. Elle m'appelle plus comme ça, mais maintenant les journalistes me le ressortent assez régulièrement. En revanche, jouer dans les pièces de ma sœur, ça c'est moins connu. Ouais.
Vous avez encore les textes de la pièce?
Oh non, plus du tout.
Vous dessinez, surtout lorsque vous découvrez la série Les Nymphéas de Claude Monet, que vous reproduisez en classe. Vous lisez aussi un petit peu, mais pas trop, au grand désespoir de votre maman qui est bibliothécaire. Ouais. Vous êtes surtout élevé à la grande chanson française par vos parents, Brassens, Brel, Barbara et aussi Renaud.
Y'a pas de gonzesse ou liane, imbécile et meurtrière. Y'en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher.
Vous avez d'ailleurs votre premier autographe de Renaud à 12 ans, je crois.
Ouais, exactement. Il avait joué au bout de ma rue à Saint-Denis en plein air et tard le soir, après, j'étais passé sous les palissades et derrière la scène et j'ai eu un autographe de mon idole.
Grand Corps Malade à l'école, vous êtes un très bon élève avec beaucoup de facilité, mais un peu turbulent. Vous avez des avertissements pour mauvaise conduite. Dans votre vie, ce qui compte, c'est le sport, surtout le basket. Vous avez accroché des posters de Michael Jordan sur les murs de votre chambre. Il vous arrive de vous réveiller dans la nuit pour suivre les matchs de la NBA avec le décalage horaire. Le basket, vous le pratiquez aussi. Vous jouez au poste d'ailier et vous vous rêvez sportif de haut niveau.
Oui, c'est vrai.
Vous regardiez la NBA la nuit sur Canal?
Ouais, bah oui, comme tous les passionnés quand t'as 15 ans et que Canal Plus commence à jouer les matchs de la NBA la nuit, bah évidemment, j'ai fait des bons 2h, 5h du mat pour les finales NBA.
Il y a une maman qui a écrit à Charles Bietri quand il était le patron des sports pour lui dire que les matchs passaient trop tard en direct de NBA et Charles Bietri lui expliquait que la Terre tournait et qu'il y avait le décalage horaire.
Adolescent, vous écrivez quelques textes de rap, mais vous n'en faites rien, ils se retrouvent vite au fond d'un tiroir. Mmh. Après le bac, un bac littéraire parce que vous n'aimez pas les maths, vous préparez un DUG pour devenir professeur de sport ou éducateur sportif. Mais à 2 semaines de vos 20 ans, alors que vous êtes moniteur en colonie de vacances, vous êtes victime d'un grave accident dans une piscine, vous vous retrouvez handicapé. Après l'hôpital et la rééducation, vous reprenez vos études et vous commencez à travailler au service marketing du Stade de France, un job qui ne vous passionne pas et je crois que vous vous faites renvoyer.
C'est vrai, je me suis fait virer au bout de 4 ans. Oui, oui, je suis entré par amour du sport et j'ai vite découvert que là, c'était plus l'antre de l'argent que du sport. Et du coup, c'est vrai que bon, j'étais pas un grand passionné de marketing.
Un soir, vous accompagnez un copain qui a perdu un pari et doit slammer dans un bar. C'est comme ça que vous découvrez le slam, de la poésie moderne à l'oral qui se pratique sur scène et qui est né à Chicago il y a plus de 30 ans. C'est une révélation. Vous découvrez qu'on peut se revendiquer poète en jean basket et vous avez envie de participer. Alors vous vous y essayez, d'abord à l'écriture, puis à la scène. Votre tout premier texte s'appelle Cassiopée et il commence par « Une nuit d'été, une nuit de juillet, une nuit compliquée que je n'ai pas maîtrisée ».
Ouais, ouais, c'est vrai que le premier texte parlait de la nuit de l'accident. Et c'est vrai que très vite, je me rends compte que les premiers textes sont souvent un peu durs, un peu graves. Et qu'un peu après, on se dit, attends, on peut aussi écrire des choses plus joyeuses.
Et il vous faut un nom de scène. Dans le slam, on ne connaît pas le vrai nom des artistes. Et vous avez remarqué que les slameurs ont des noms un peu bizarres. Dagoblin, Ruda, Neoblade, John Pooch Chocolat.
C'est vrai, c'est vrai. Toute cette bande.
Alors, vous devenez grand corps malade comme une évidence. Vous y retournez, vous rencontrez du monde. Et vous vous dites avec vos amis que ça peut schémar, ça peut marcher.
C'était notre hymne, ouais. Ça peut schémar.
Un
de mes premiers textes avec justement John Pooch Chocolat, Jackie, Ido, si tu nous entends, mon pote. Et on a écrit, c'est devenu un peu notre slogan, ça peut schémar.
La rencontre avec Jean Rachid va être déterminante. Il devient votre producteur, il veut vous mettre en lumière. Il vous fait jouer au Réservoir, un premier spectacle qui a un gros succès. Et quelques jours plus tard, vous vous retrouvez à la télévision pour la première fois chez Thierry Ardisson.
Alors je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu traverseras Alger et Tanger. Tu verras des Yougos et des Roms, et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à deux pas de New Delhi et de Karachi, t'as vu Thierry, j'ai révisé ma géographie, je t'emmènerai bouffer du mafé à Bamako et à Yamoussoukro. Ou si tu préfères, on ira juste derrière, manger une crêpe là où ça sent Quimper et où c'est un petit air du Finistère. Et en repassant par Tizi Ouzou, on finira aux Antilles.
Quelle séquence!
Votre première télé. Le public découvre l'étendue de votre talent au printemps 2006 avec l'album Midi 20 qui prend tout le monde à contre-pied. Vos mots sobrement déclamés et votre manière d'écrire à l'oral vous permettent de décrocher un disque d'or en à peine 3 semaines. Mais ce n'est que le début. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup.
C'est
touchant, j'adore. Un mot de Jean Rachid, votre producteur. Il paraît que c'est le seul producteur qui touche absolument pas sa bille en musique, qui fait pas de musique.
Non, pas du tout. Mais c'est ça que j'adore chez lui. Il se prétend pas musicien, mais par contre, il a plein de goût, ça c'est sûr. Et il marche au feeling, il marche à l'émotion. Et quand une chanson lui plaît, il est pas capable de dire pourquoi. Il va pas te parler d'accord majeur, mineur ou je sais pas quoi. Mais il va dire ça me touche ou ça me touche pas.
Et j'aime bien. Et qu'une chanson lui plaît pas.
Et pareil, dit ça me fait rien, ça me ni chaud ni froid, et souvent il a raison.
Jean Rachid, qu'on salue. Lisa Marie, merci beaucoup, bon week-end. Grand Corps Malade, reste avec nous. On n'a pas encore dit un mot de la tournée, et pourtant elle est énorme. On va aussi parler littérature, on va aussi parler gastronomie. Culture Média continue.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Grand Corps Malade, que d'actualité avec vous, mesdames. C'est votre dernier album qui sort avec une réédition et 4 titres inédits, pas moins de 4 titres inédits. On va parler de la tournée. Je vais dire très rapidement, vous serez à Lyon le 26 janvier, il y aura Genève ensuite, le Zénith de Paris les 29 et 30 mars, et il y aura une date qui va être ouverte pour
Les deux Zénith à Paris sont complets. Du coup, on a ouvert le 20 décembre un Bercy, enfin un Accor Arena, maintenant on dit. Donc voilà, pour les Parisiens, ce sera à Bercy. Mais après, il y a une trentaine d'autres Zéniths, donc tout sur mes réseaux sociaux, les Instagram et tout, il y a toutes les dates dans l'ordre, tout comme il faut.
Et j'en donnerai aussi, peut-être pas les 30, mais j'en ai un petit peu en fin d'émission. Il faut rester avec nous jusqu'à 11h. Avec tout ça, vous avez le temps de lire ou pas? Vous lisez quoi en ce moment?
En ce moment, je lis plutôt des biographies, toujours la même, enfin du même personnage. Ah oui. Parce qu'on prépare un film.
C'est qui ?
On prépare un film.
D'accord. On ne saura pas. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas Carreau, vous n'avez pas un, mais 2 livres, mais ça a à voir avec la biographie et ils sont liés.
Absolument. Le premier, c'est Portrait du baron d'Andrax de Bernard Quirini chez Rivage. Bernard Quirini, c'est un Belge, un peu critique littéraire, beaucoup écrivain. Il a publié des nouvelles, des romans, ils sont souvent drôles, toujours très bien écrit avec un style particulier et surtout, toujours des idées inédites.
Je me souviens des Contes carnivores que j'avais dévorés.
Vous les assoiffés.
C'est une biographie là ?
C'est un récit, l'histoire de Bernard, le narrateur, c'est lui, c'est Bernard Quirini. Un jour, il achète une toile du peintre Henri Mouquin d'Andrax, mort en 1960. Il l'a trouvée par hasard dans une brocante, mais la peinture l'intrigue, alors il commence à s'intéresser à la vie du peintre. Mais rien, personne n'a jamais publié de biographie et il apprend qu'il y a un musée dans l'Allier qui expose quelques-unes de ses œuvres à Andrax, justement.
justement, un village de 1500 habitants. Il y va et ça lui plaît, c'est tranquille, un peu hors du temps, épargné par la frénésie moderne. Il traîne dans le musée, il y a effectivement quelques toiles d'Andrax et il sympathise avec le gardien qui lui apprend que, d'abord, le petit-neveu du baron habite toujours le manoir familial et que le musée cherche un gardien.
Et votre auteur prend le poste.
Absolument. Et wow. Il rencontre le petit-neveu, le baron Archibald d'Andrax, un sacré personnage. D'abord, par exemple, c'est un collectionneur de ruines, de maisons en ruines. Des maisons qu'il garde en l'état, sans changer ni la décoration, ni rien. Donc, il y a encore de vieux napperons, de la vieille vaisselle, des produits ménagers d'époque, etc.
Je ris, mais pourquoi faire ?
Bah, ça, c'est le baron lui-même qui lui explique, parce qu'il finit par le rencontrer. Il a l'air de sortir d'un conte. Très grand, il ressemble à un ogre, des cheveux ébouriffés, puis une canne à pommeau d'argent, un mélange entre Dali et la bête de la Belle et la Bête. Et il lui explique donc qu'il achète ses maisons, d'abord parce que personne n'en veut, et ensuite c'est un moyen de voyager dans le temps, parce qu'il n'achète que les vieilles maisons qui n'ont pas été rénovées et qui ont gardé leur vieux mobilier. Mais c'est pas sa seule lubie, il en a plein. Il reconstitue par exemple les batailles napoléoniennes avec des petits soldats. Dans son château, il a fait installer une pièce à sensation tactile. C'est une pièce aveugle, sans lumière ni fenêtre, et à l'intérieur, on peut toucher des choses étranges pour des sensations inédites. Mais il n'y a pas que ça, il organise aussi des soirées de sosie. C'est un fou de train électrique. Il fabrique des guillotines jouets avec ses enfants, puisqu'il a deux familles qui cohabitent dans son manoir.
Ah oui, le moins
des enfants qu'il a élevés en latin et les autres en grec.
Waouh, il est plutôt excentrique, le mot est faible.
Exactement. On se dit, quel personnage ce type ?
Et le deuxième livre alors ?
Eh ben, c'est justement un livre que Bernard Quirini a découvert après la mort du baron en 2016, Rivage l'édite sous le titre Carnet secret. C'est un recueil de pensées, d'aphorismes. Vous en voulez ?
Ah ben, évidemment.
Le monde est une blague dont j'attends la chute. Ou on tire les feux d'artifice la nuit pour ne pas blesser les oiseaux.
Que c'est joli. Ça sont les carnets du baron et le livre de Bernard Quirini, Portrait du baron d'Andrax chez Rivage, son incroyable vie.
Incroyable, c'est le mot. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment y croire à cette histoire ? C'est pas tout à fait sûr, c'est à vous de voir.
Il existe ou il n'existe pas ?
On ne sait pas.
Vous nous le dites
on
pas.
On ne sait pas. C'est tellement étrange qu'on se demande s'il existe.
Ce
cas,
silence,
son livre a été édité.
Ce silence, c'est le fils de la bibliothécaire, grand corps malade, qui lit le livre et qui est scotché sur
je
les aphorismes.
Dedans, je suis dedans, j'aime les aphorismes. Donc j'étais. Merci.
Allez,
merci.
Un au pif.
Un au pif, alors vraiment au pif. Hop, j'en ouvre un. Hop. Il disait, le monde est une blague dont j'attends la chute.
Ah bah c'est celle que j'avais prise. Magnifique.
Gérard Majax.
J'étais pas attentif parce que j'étais déjà dans le livre.
Il y en a au moins 300 ou 400 des aphorismes. Bah
ouais, c'est extraordinaire. Ouais. On aurait voulu le faire après, on n'y serait pas arrivé. Je salue Éric Antoine, le magicien. C'est un tour qui peut nous repiquer. Culture Média continue. On va parler de gastronomie.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Blandel.
En compagnie de Grand Corps Malade, je pense qu'on n'a même pas encore eu le temps de parler de la tournée et quelle configuration puisque ce sont des duos, mais d'abord on parlait de gastronomie. Grand Corps Malade, vous allez adorer la chronique qui va suivre. On vous a demandé il y a quelques temps, je suis dans le gala il y a quelques semaines, ce qui vous a le plus manqué pendant le confinement, et vous aviez répondu ceci, les cafés, le bruit du zinc, l'odeur du café, je viens de là, ça grouille de vie, ça grouille de vérité, et je m'en inspire également dans mes textes. Bonjour Olivier Pouls, tout ça vous parle, les bistrots, ouais, oui. Le bruit du zinc, l'odeur du café. Est-ce que ça existe encore ? Est-ce que les vrais bistrots français ont disparu ?
Bah écoutez, si vous voulez me suivre et entrer dans un bar, allumer une clope, commander un Viandox, prendre un œuf dur au comptoir et ensuite aller faire une partie de flipper avant de demander à passer un coup de fil, là, il va falloir effectivement prendre une machine à remonter dans le temps parce que ça a un peu disparu.
Ah oui, d'où la clope, j'ai compris. Il n'y a plus la machine, vous vous souvenez, la machine où on était 20 centimes, on peut prendre des cacahuètes.
Ouais, bien sûr, si, il y en a encore.
Ah bon ?
Maintenant, c'est plutôt 1 euro.
Ouais.
Et c'est des petites boîtes de conserve, là, mais ça existe encore.
Pourquoi vous aimez autant les bistrots ?
Bah, pour ça, parce que c'est, y a de la vie. Tu discutes avec le mec qui passe, c'est ouvert. Tu prends ton petit café, il y a l'odeur de la vraie vie, quoi.
Ouais, alors c'est vrai que c'est une ambiance. D'abord, c'est un lieu social absolument incroyable. On y croise tout le monde dans les bistrots, les riches, les pauvres, les minces, les gros, les hommes, les femmes. Ça discute. C'est dans les villages. C'est quand même souvent, d'ailleurs, le dernier lieu où les gens peuvent aller se rencontrer. Ouais. Et j'ai regardé des chiffres qui sont malheureusement assez terribles. En 1900, il y avait 500 000 bistrots en France. En 1960, il y en avait plus que 200 000. Et avant le confinement, il en restait 38 000. Non. Et j'ai peur que depuis, il y en ait encore quelques-uns qui aient disparu.
38 000, il y aura bientôt moins de bistrots que de communes françaises, bah, c'est horrible.
Ça. Avec que de pharmacies, certainement, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que le bistrot, c'est une ambiance, c'est aussi une gastronomie, c'est des produits. Je vous parlais tout à l'heure du fameux œuf dur qu'on pouvait acheter. Malheureusement, celui-là, on ne le trouve pratiquement plus. pour des raisons d'hygiène. Ouais. Exit aussi le petit pot, vous savez, avec les cacahuètes qui traînaient au bord du comptoir que le patron mettait à disposition. Alors oui, là, malheureusement...
On va pas dire où les mains ont trempé, parce qu'il y a des enfants qui écoutent.
Voilà, il y a eu quelques prélèvements qui n'ont pas été très favorables, on va dire.
Déjà, c'était plus la mode avant les histoires de Covid, mais alors maintenant, je pense qu'il n'y aura plus jamais le petit pot de cacahuètes collectif.
Et puis après, ce qu'on buvait, peut-être que vous avez le souvenir de commander un blanc casse ou un blanc limé. Ça a pratiquement disparu.
Les vieux, quand j'étais petit, prenaient du blanc limé, et des fois, évidemment, à 8h du matin.
C'est quoi le blanc limé ?
C'est du blanc et de la limonade.
Ouais, alors, il faut dire que le blanc, il ressemblait plutôt à du détergent qu'à du vin.
Ah, mais tellement.
La qualité du vin, il faut bien le dire, largement progressé dans les bistrots aujourd'hui.
Pas, le vin du patron, il était vraiment pas bon.
Le Viandox, ça aussi, c'est un truc qui a complètement disparu. Ouais. Alors, on commande plus en Viandox aujourd'hui, le vin chaud de la même manière. Mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une espèce de revival, en tout cas des plats de bistrot. L'œuf dur mayonnaise, par exemple, est un plat hyper tendance. Et rien que pour vous dire, il y a quelques semaines, c'est tenu le championnat du monde d'œufs durs. C'est vous dire qu'il y a quand même aujourd'hui...
Il y a des gars qui sont venus du monde entier avec leur œuf.
Alors, malheureusement, plutôt de France et de quelques pays voisins, mais on prend aujourd'hui très au sérieux ça. C'est vrai que le céleri remoulade revient.
Moi, j'adore.
C'est très clivant, le céleri. Je vois ça.
Le poireau vinaigrette.
J'adore aussi.
Et alors, petit fun fact, est-ce que vous savez, selon la légende, d'où vient le mot, le terme bistrot ? Pourquoi on appelle
ça un
bistrot ?
Bien sûr.
Montmartre.
C'était les Russes blancs qui arrivaient, qui étaient chassés par la révolution bolchevique, qui étaient là. Ils disaient bistrot, qui veut dire ça va vite.
Alors, ils devaient rentrer tôt, donc ils disaient bistro, bistro, ça voulait dire vite, vite, ils voulaient être servis rapidement. On prétend que c'est de là qu'est né le terme bistro. En fait, les bistros ont été créés au 19e siècle par les Auvergnats qui sont arrivés à Paris, qui en un premier temps vendaient du charbon, vendaient du bois, vendaient ensuite des boissons. Et puis ils ont créé ces premiers établissements où on pouvait tout faire. On trouvait d'ailleurs, dans le même lieu, du bois acheté, du charbon et des boissons.
Vous aimez déjeuner dans un bistrot ou c'est simplement pour boire un coup et
le petit
café aux
zinc ? Ouais, j'aime bien déjeuner au café, ouais.
Et les plats canailles, vous aimez ça ? Vous aimez les plats bistrot ?
Ouais.
Et puis Nicolas me disait tout à l'heure qu'il a une petite requête et il n'a pas tort. C'est que malheureusement, dans les bistrots français, le café est souvent pas très bon. Alors on en prend, mais il est pas très bon. C'est des machines à percolateurs qui sont souvent un petit peu encrassées avec une mouture dedans qui est pas géniale. Et s'il y a une petite appel à faire, c'est qu'on voudrait quand même qu'il y ait un petit effort qui soit fait sur la qualité des cafés, qu'on soit capable de nous donner l'origine, et pourtant des cafés qui sont vendus extrêmement chers. Parce que s'il y a des choses qui n'ont pas disparu dans les bistrots, c'est les prix un petit peu élevés. Et puis l'amabilité parfois un peu moyenne du serveur parisien qui, d'un geste de la tête, veut dire « Bonjour, qu'est-ce que vous voulez ? Dépêchez-vous. » Hein, vous la connaissez, celle-là.
Mais il y a quand même quelque chose qui a disparu. C'était le pain mou dégueulasse, le patron avec le chien loup derrière le comptoir. Ça, vous souvenez de ça ?
Ouais,
ça n'existe plus.
Ouais, la fameuse chanson de Renaud qui commence « J'étais tranquille, j'étais peinard assis au comptoir ». Voilà. Et puis si vous voulez soutenir les bistrots, sachez qu'il y a une association qui s'appelle Bistrot et Café de France qui est en train d'essayer de lancer un dossier pour que le bistrot français puisse rentrer comme patrimoine immatériel à l'UNESCO. Alors moi, je suis d'accord, je soutiens.
Ouais. Allez, on soutient.
Ouais. Et Olivier Pouls, du coup, va entrer dans le patrimoine immatériel.
Je veux bien aussi, tiens.
Patron, la même chose. Merci Olivier. Culture Média continue, c'est la dernière ligne droite. On est avec Grand Corps Malade, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
J'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole quand la vie te punit, la musique te console? À quel
vous reconnaissez la voix de Grand Corps Malade qui est avec nous dans ce studio. Vous avez peut-être reconnu la voix de Louane qui est sur cet album Mesdames. Et sera-t-elle, puisqu'on parle de la tournée, le dernier album sont des duos avec des chanteuses, il y a même Véronique Sanson. La tournée, c'est comment? Elles vont toutes vous suivre dans toutes les salles de France?
J'aimerais bien. Non, évidemment, elles sont là de temps en temps. Louane est venue chanter avec moi à Lille, c'était un grand moment, parce qu'elle est de là-bas. Mais quand elles ne sont pas là, elles sont là quand même, je m'explique. Il y a un écran monumental, un grand écran en fond de scène qui fait partie du décor et de l'histoire, parce qu'on raconte un peu une histoire pendant le concert, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, il y a un écran et on est allé évidemment filmer sur mesure pour chaque chanson mes partenaires. Donc on retrouve quoi qu'il arrive, les morceaux qui ont bien marché, qui sont passés en radio, le duo avec Camille Lelouch, avec Louane, avec Kimber Rose, avec Suzanne, avec
avec les sœurs Berthollet, etc. Donc voilà, même quand elles sont pas là, elles sont là. On les a filmées sur mesure. Il y a un vrai jeu entre moi sur scène et elles sur les écrans. Il y a des regards. Il y a... Voilà, on a fait les choses. On a déjà fait une quarantaine de concerts. Donc ce petit système, même quand elles sont pas là, voilà, ça marche bien. Et du coup, les gens peuvent retrouver la chanson, le regard de la chanteuse et elles peuvent chanter avec elle.
C'est une énorme tournée dans laquelle vous êtes lancé, qui s'étale sur 2 ans, 120 dates, dont 45 Zénith, et puis Bercy, l'hôtel Accor Arena. Mais d'abord, le 29 décembre, ça m'a fait sourire plus que ça. Même, vous avez modifié votre affiche sur votre page Facebook. Vous avez écrit ceci: « Je suis candidat aux élections présidentielles. Tous mes meetings sont maintenus. » Ça fait évidemment référence aux nouvelles décisions gouvernementales qui instaurent une jauge de 2000 personnes pour les spectacles à l'intérieur, mais pas de jauge pour les rassemblements politiques.
Voilà, ouais,
à la fois, ça vous fait marrer et ça vous met en colère.
Ouais, il y a une petite incohérence. Évidemment, ils brandissent la Constitution pour expliquer ça. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, la Constitution. Pourquoi eux ont le droit de remplir des fois debout, sans masque, sans passe sanitaire, et ils sont 10 000 dans une salle. Nous, on n'a pas le droit d'être plus de 2 000 pour un concert, alors que pourtant, on a tout organisé pour que les concerts soient tout assis, masqués, les gens sont dans le même sens. Bon, et puis il y a eu des tests quand même qui montraient que justement, les concerts n'étaient pas un lieu de où on pouvait se contaminer.
On l'a vu avec le concert d'Indochine.
Voilà. Donc les résultats étaient très très satisfaisants et pourtant bon, ils nous ont interdit les jauges de plus de 2000. Évidemment, c'est frustrant pour nous. On a déjà dû repousser quelques concerts. A priori, les restrictions s'arrêtent là dans une semaine, 10 jours. Donc les prochains concerts sont maintenus. Le 25 à Lyon, le 26 à Genève, le 27 à Troyes, etc.
Le 26 à Lyon.
Oui, pardon. Ouais,
c'est le 26 à Lyon, le 27 à Genève.
C'est vous qui avez raison. 26 à Lyon. Ouais. Donc bah voilà, on espère bien en tout cas que les restrictions seront pas prolongées. Et puis bon voilà, toutes les dates, j'avais dit, sont sur les réseaux sociaux parce qu'on en a beaucoup. Je les connais pas toutes par cœur.
Trop. Je peux encore dire Montpellier le 11 février, Pau le 24 mars, Marseille le 26. Zénith de Paris. Ah non, c'est complet. Je le dis pas. 29 et 30. Bercy, j'ai oublié la date.
Bercy,
c'est en décembre.
20 décembre 2022. Ce sera la dernière date de la tournée. Là, il y aura les écrans, mais il y aura aussi certainement pas mal d'invités sur scène.
Et c'est pas fini, votre activité. Et vous avez écrit, vous êtes en train d'écrire un spectacle autour de Léla Becti.
Oh là, qu'est-ce que vous êtes bien renseigné. C'est tout neuf. Ouais, voilà, c'est le début. On ne sait pas trop où on va, mais on est hyper excité d'écrire pour Léla Becti.
Elle est également sur l'album. Il y a aussi. C'est ça le nouveau film sur lequel vous travaillez. Il y a un troisième film,
ouais,
c'est la biographie.
Film, ouais,
et vous
n'avez
pas le droit de dire qui c'est.
C'est un peu tôt.
C'est un peu tôt, voilà. Je ne sais pas, en 2019, vous étiez mis dans la tête d'écrire une série comique.
Ouais, oui, c'est en stand-by.
Elle en est où? Donc, sur l'univers du stand-up.
Exactement, ouais, il y avait un serial killer dans le milieu du stand-up. finalement, pour l'instant, on est plutôt parti sur le long métrage.
Ouais.
Donc ça, bon voilà, il y a une belle base qui existe. On ne dit pas notre dernier mot, ça peut ressortir dans quelques temps.
Formidable. Suzanne, elle sera avec vous en tournée?
Elle va venir de temps en temps, bien sûr.
Il y a quelque chose que je n'ai pas dit encore, c'est que cet album Mesdames, il est tourné vers les femmes.
Bien sûr.
Et c'est presque la manière que vous avez de prendre avec vous, d'englober la nouvelle manière qu'ont les sexes de se parler, et presque, à votre façon, le mouvement MeToo, avec une sorte d'hymne féministe que je n'avais jamais vu. C'est un regard croisé, 24 heures dans la vie d'une femme, salut Stéphane Zweig, et pour Suzanne, 24 heures dans la vie d'un homme, ça s'appelle...
Pendant 24 heures, tout simplement.
Pendant 24. J'enverrai un mail au taf en faisant les courses à Carrefour. J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four. Avec eux, je serai joyeuse avec mon mec femme fatale. 24 heures dans la peau d'une femme, je comprendrai la charge mentale. À 16h35 pile, j'arrêterai de travailler. Vu qu'après, quand t'es une femme, eh ben, t'es plus payé. Je sortirai en jus quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton porc.
Du whisky pour me mettre à l'aise. Sans coca, sans glaçon, comme les mecs balèzes. J'irai draguer une fille, mais y'aura pas de malaise. J'enverrai pas de texto qui dit c'est quand qu'on baise. Je serai romantique avec les meufs sur Tinder. Pas de dick pic, des cœurs de toutes les couleurs. J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber. Si je croise un autre mec, plus besoin d'avoir peur.
Mais je veux aussi kiffer, connaître enfin leur vrai pouvoir. Critiquer les gens avec mes copines du matin au soir. Et dès qu'elles sont parties, les critiquer elles aussi. Fanny est vraiment chiante, Solène elle a grossi. Je veux découvrir enfin le singulier bonheur de réussir à faire un créneau en une demi-heure. Comprendre enfin la passion sincère, sans censure, de regarder sur internet pendant des heures des chaussures.
C'est à la fois très généreux et ça tacle en même temps.
Ouais, c'était vraiment le but avec Suzanne. On s'est dit à la fois on va dire des vrais trucs, essayer de dénoncer les vraies inégalités hommes-femmes, et en même temps on va s'amuser un peu des clichés hommes-femmes. Donc,
elles nous rentrent bien dedans. Et puis moi, je les vanne aussi. On s'est bien amusé à faire ce morceau. Sur scène, on rigole bien aussi.
Voilà, Lisa-Marie Marquez a bien souri.
Et Suzanne, grande actrice, très bonne autrice. Vraiment, c'est une super artiste.
Vous écrivez tout seul ou vous écriviez chaque fois avec la chanteuse?
C'est du sur-mesure, ça dépend.
Là, par exemple, en l'occurrence,
Suzanne a écrit sa partie. Moi, j'ai écrit la mienne. Et il y a d'autres morceaux de l'album où j'ai tout écrit pour Louane, par exemple. À chaque fois, je rencontrais la partenaire. Je lui disais de quoi tu veux qu'on parle et comment tu veux qu'on procède. Et à chaque fois, on faisait du sur-mesure avec, je veux quand même le citer au moins une fois aujourd'hui, Moziman à la baguette musicale, puisqu'il a énormément apporté à cet album. C'est lui qui a tout composé et il doit aussi beaucoup, on lui doit beaucoup de succès.
10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Tous les jours, il y a des célébrités qui viennent voir notre invité. Ce matin, Grand Corps Malade, c'est Laurent Delahousse qui souhaite réagir.
Bonsoir à tous et surtout bonsoir à toutes. Enchanté, Grand Corps Malade, moi c'est Superbe Corps d'Apollon, en pleine santé. Bref, contrairement à vous Fabien, c'est rare que je dorme sur la béquille. Fabien, une question motarode, vous avez appelé une de vos chansons, Les gens beaux, mais pourquoi ne pas l'avoir appelée tout simplement 20h30 de la housse? Non, ne répondez pas Fabien, car il serait dommage pour les audiences que la caméra ne soit plus sur moi. Quant au titre de votre album, Mesdames, c'est, je crois, le plus bel hommage qu'on avait fait aux femmes depuis ma puberté.
Et il y a un autre chanteur qui a vendu énormément d'albums, il est là également pour vous, je veux bien sûr parler d'Orelsan.
Ouais, c'est marrant. Ok. Non, j'adore venir dans des émissions musicales, en plus, il y a des invités de marque. Ouais, Grand Corps Malade, c'est le mec. Bon, et puis on a Bébert des Formants aussi, c'est la classe. Non, en tout cas, Fabien, ça serait super qu'on se fasse un son ensemble. Sans Bébert, hein. Eh, si on additionne tes ventes et mes ventes, on va vendre autant que Johnny. Eh, le truc relou, c'est qu'après, on va devoir se partager la garde de Laetitia.
Et à propos de Johnny, il y a Philippe Manœuvre qui vient d'arriver dans le studio.
Ah non, mais attends, pas sûr que ça soit moi, Philippe. C'est peut-être mon double astral parce que je viens de me gober 33 centilitres de kétamine. Perso, je suis sur une plage sur la planète Tatooine en train de bronzer avec des Ewoks. Rock'n'roll ! Bon, en tout cas, mon double astral, il est trop content de rencontrer Grand Corps Malade. D'ailleurs, si t'es trop malade, tu me demandes, j'ai toujours quelques cachetons sur moi. Enfin bref, pour moi, la vraie bonne surprise de l'album, c'est la chanson avec Véronique Sanson, quoi. 70s ! Non mais avec ce titre, t'arrives à réunir les générations encore mieux que le lit d'Emmanuel Macron, et ça j'adore, quoi. Ouais !
Et puis André Manoukian nous fait part de ses émotions quand il écoute votre musique, André.
Ah, oui, Grand Corps Malade, c'est mon ASMR, un orgasme auditif. Il badigeonne sa semence poétique sur mes oreilles extatiques. D'ailleurs, j'ai une proposition à te faire, Grand Corps. Il y a Jackie et Michel pour les besoins basiques, mais pour les besoins émotionnels, il y aura André et Fabien. Voilà. Tu banderais l'arc de ton flot et mon piano à queue décrocherait la flèche de l'amour. Attends, je devrais peut-être arrêter de mater Canal+, en même temps que j'écoute ta musique. Là, je suis perdu.
Calmez-vous, André Manoukian. Merci, Marc-Antoine Lebray. À lundi, bon week-end. Merci, Grand Corps Malade, d'avoir été avec nous dans cette émission, d'avoir joué le jeu. Nous, on se retrouve lundi à 9h, évidemment, pour Culture Média. Nous serons avec le comédien et humoriste Michel Bougenat. Les 400 ans de Molière, va-t-il aller au Panthéon? On ne sait pas. En tout cas, Bougenat joue l'avare de Molière, Harpagon. Et puis, Olivier Delacroix, le célèbre confesseur au dreadlocks, avec nous, Dans les yeux d'Olivier, émission de témoignage sur France 2. Et puis maintenant, c'est bien fait pour vous, Julia Vignali, Mélanie Gomez. Bonjour, le programme du jour.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Allez, aujourd'hui, on va parler du burn-out. C'est un terme qu'on voit de plus en plus, mais qui reste quand même assez mystérieux. Alors, on va faire le point ensemble. Comment distinguer une fatigue passagère d'un burn-out? Quels sont les signes avant-coureurs? Et surtout, comment le traiter?
Et puis, on parlera aussi de médecine chinoise. Je ne sais pas si vous êtes adepte d'acupuncture, de phytothérapie, de qigong. Enfin bref, il y a plein de piliers dans la médecine chinoise. On va en parler avec notre invité.
On vous écoute et nous, on se retrouve lundi à 9h. Bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1.